Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Voici les girafes, une famille moderne de la...
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Oui. Bienvenue pour ce nouveau podcast intitulé « Les petites boîtes de pensées fermées ». Dans ce nouveau podcast composé de 3 épisodes différents, nous allons parler des raisons qui peuvent nous enfermer dans des petites boîtes de pensées fermées et qui ne nous permettent plus une certaine idée du vivre ensemble. Sur base de 2 témoignages de jeunes rencontrés en IPPJ, nous questionnerons la notion de valeur familiale notamment et l'influence de celle-ci dans la construction identitaire d'un adolescent. Nous aborderons aussi la question des mécanismes de ces petites boîtes de pensée fermées qui font mal aussi bien à celui qui en détient la clé qu'à ceux qui la lui procurent. Et nous élaborons quelques pistes de réflexion sur le travail social notamment. Pour nous y aider dans cette réflexion, j'ai fait appel à 3 intervenants. Dounia, jeune éducatrice de 20 ans, toujours aux études. Nolan, conseiller philosophique à l'IPPJ de Wautier-Bresnay qui a très bien connu les 2 jeunes qui témoignent. Et Annette, une prof à la retraite de 80 ans. Bonne écoute et bonne réflexion.
C'est très important à savoir, ça dépend dans quel état d'esprit on apprend une chose en fait. Et moi quand j'ai appris la religion dans un état d'esprit négatif, c'est-à-dire la haine, la colère, l'injustice, tout ça, toutes les interprétations que je voyais sur la religion, c'était dur, strict, un peu violent des fois. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à rentrer d'autres dans le plus vif du sujet, à commencer à fréquenter des groupes, tout ça, à découvrir un peu cette violence. C'était plus un sentiment de besoin d'appartenance. J'étais en crise d'identitaire, tout ça en fait. À cause du vécu que j'ai eu, je n'avais pas su me développer normalement en tant que... Un jeune adolescent en fait.
L'extrême droite, tout autant que l'extrême gauche, leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et donc ces personnes qui ne savent pas quoi voter, qui sont un petit peu perdues, on leur tend directement une solution. On dit votre malheur c'est ça, et on peut le régler. Et donc pour moi c'est une partie de gens en colère qui, oui, certains... se disent que oui, les étrangers, c'est le problème, et il y en a qui ne savent pas, et sauf qu'on leur dit c'est ça, et on a la résolution du problème. Donc pour moi, c'est une part de personnes qui sont perdues, qui ne savent pas quel est le problème, et une partie de personnes qui sont en colère, quoi.
J'avais besoin d'une accroche face à ma faiblesse. C'était la religion. Justement, je me suis accroché à la religion pour ne pas flancher, pour avoir ce rôle de chef de famille, en fait. C'est devenu aussi une faiblesse dans le sens où je ne l'ai pas bien pratiqué, en fait, à cause de mon état d'esprit, bien sûr.
Pourquoi tu penses ne pas l'avoir bien pratiqué?
Parce que je l'ai étudié dans un état d'esprit négatif, et donc ma pratique était violente et négative.
Violente contre toi, contre ta famille, contre l'État, contre les gens autour de toi?
Contre l'État et le peuple.
Et pourquoi cette haine liée à cet apprentissage, de cette radicalité
C'était à cause du parcours que j'ai eu, tous les refus à gauche à droite que j'ai pu recevoir, le fait d'avoir habité à la rue, par exemple, avoir beaucoup déménagé, avoir été exclu de plusieurs écoles, par exemple, suite à des bagarres, par exemple.
La colère, parce que ça t'a accompagné longtemps, ça.
La colère, la haine. En fait, c'était surtout le sentiment d'injustice. L'injustice, je ne supporte pas ça. Et quand j'ai commencé à rentrer dans la religion, je me suis reconnu dans certaines propagandes, en fait. Des peuples opprimés, tout ça. Et c'est là que c'était une forme d'endoctrinement. J'ai été endoctriné par des propagandes, tout ça.
Ce sur quoi tu dois travailler et qui t'est reproché, ce sont ces 3 choses-là, c'est ça?
Oui, donc c'est menace d'attentat, parce que en fait, je voulais me venger sur ce qui m'était arrivé à l'école, dans mon école. Et donc j'avais projeté de commettre une tuerie de masse dans mon école, ce que je n'ai pas fait, mais j'y avais pensé, il y avait des traces de messages sur mon téléphone qu'ils ont pu intercepter et donc m'arrêter avant.
Ton intention, c'était vraiment ça, te procurer une arme, puis d'aller à l'école,
oui.
Et de l'utiliser contre ceux qui... Qui tu étais en colère, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Je voulais aller sur un champ de bataille pour mourir. Ouais, c'est vrai. Je voulais... En fait, je ne me plaisais pas dans cette vie, en fait. Je ne me sentais pas appartenir. J'étais quelqu'un de... Enfin, je le suis toujours. Je suis quelqu'un de très mélancolique. Je pense énormément à la vie. Ce qui est bon, ce qui est très mauvais. Ce que ça peut apporter. En fait... Je ne me reconnais toujours pas dans ce monde, ce peuple, je dirais, ou ce lieu d'habitat, ou ce lieu de demeure. Donc moi, à l'âge de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans, je voulais aller sur un champ de bataille. Par exemple en Syrie, dans un premier lieu, enfin je croyais au début que je voulais aller sur un champ de bataille, pour aider le peuple, et que pour ça, aider le peuple opprimé. Mais la principale raison, c'était parce que je voulais mourir et que je n'étais pas heureux, en fait.
Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet, beaucoup de manque d'appartenance en ce monde, finalement. Et du coup, toute cette souffrance est nourrie par la haine de l'autre. Mais je pense que le fait qu'ils voulaient tous les deux faire du mal n'est pas la raison première. Ils ne veulent pas faire du mal à proprement dit à ces personnes-là, mais c'est parce qu'ils sont très... C'est parce qu'ils souffrent, et c'est parce qu'ils veulent mourir, parce qu'ils ne se sentent pas très bien, en fait. Donc moi, je vois là vraiment une raison assez profonde à tout ça. Je ne vois pas l'acte en lui-même, mais je vois ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est un peu ce qui les réunit tous les deux.
Puissant, hein. J'ai beau, avec les deux autres extraits, avoir dit que je suis si heureux de voir tout le chemin qu'ils ont parcouru. Il y a quand même une tristesse et une colère aussi de mon côté de me dire que ces deux jeunes, avec de telles ressources, et me dire qu'ils en sont arrivés à pouvoir exprimer cela. Ça ne peut que répercuter une idée d'une société un peu malade, d'une société qui ne fonctionne plus, qui a du mal à créer du lien. Qu'est-ce qui peut amener un jeune à penser, si jeune, il n'y a pas d'âge pour penser à ça, mais je veux dire, c'est encore plus choquant quand c'est si tôt, à mourir et sur le champ de bataille, d'un côté, de l'autre, de se venger et de faire passer la vie d'autrui comme lambda, au point de pouvoir passer à la forme la plus extrême de violence et tuer des gens, par pure colère, par pur endoctrinement. Et moi, je ne peux m'empêcher de penser à ces personnes derrière, en fait, qui endoctrinent ces jeunes, à ces personnes qui jouent de ces émotions pour leur propre intérêt. Moi, c'est ça qui me fait peur actuellement, c'est de me dire que la radicalité, elle est partout. Et c'est bon à penser, avec les réseaux sociaux qui veulent faire passer des messages pour leur propre intérêt, très violents. Ils sont de plus en plus présents, on les écoute de plus en plus, on les remet de moins en moins en question. Et en fait, je trouve que la société se leurre en ce moment à se restreindre sur le radicalisme religieux. Mmh. On a une société qui se focalise beaucoup là-dessus. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est minoritaire. Le radicalisme, il est généralisé dans notre jeunesse. Cette radicalité, on peut la trouver dans le religieux, dans les idéaux politiques. On peut le trouver dans les cités, par la masculinité, par cette surviolence, par le rejet d'autrui. On peut le retrouver dans la montée de l'homophobie, la transphobie aussi, qui sont des choses qui sont encore beaucoup trop présentes, même quand on voit la situation mondiale et qu'on ne reste pas qu'en Belgique, qui remonte, en fait, tout simplement, le rejet d'autrui. Tout ça, c'est une forme de radicalité. Tout ça, c'est sur le même fond pour moi. C'est-à-dire qu'on est en colère, on n'est plus compris par la société, on est en guerre contre cette société. On a envie de se mettre en guerre contre cette société. Et on est perdu. On a des pertes de repères et du coup, on se rattache à la première chose qui nous permet d'en trouver. C'est notre communauté, c'est cette bande de potes, etc., qu'on va suivre, c'est cette personne qu'on va écouter sur TikTok et qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre, en fait, au final. Ça reste le même fond, mais on va choisir la forme qui nous va le mieux pour l'exprimer, cette radicalité. Mais on a une jeunesse, je pense, qui se radicalise énormément en répercussion à une société qui va de moins en moins bien.
Oui, le premier extrait, donc, voilà, il parle un petit peu de la politique, en quelque sorte. Et donc, comme il dit, là, je suis d'accord avec lui, donc, comme toute cette masse de gens qui n'ont pas d'opinion personnelle et qui ne savent pas s'en faire une par eux-mêmes, mais bien sûr, quand on lit les programmes des partis politiques, ben, ils parlent, ils disent ce que l'interlocuteur a envie qu'on dise. Donc, bien entendu, ceux qui ne réfléchissent pas, ils mordent à l'hameçon. L'autre, alors ça c'est très émouvant, c'est qu'à un moment donné, lui, eh bien, il veut venger aussi, enfin, il a un esprit de vengeance déjà au départ, mais il se met plutôt dans la religion. Mais ce qu'il a dit, quand il va aux réunions et qu'il lit donc les écrits, eh bien, il les aborde déjà en espérant trouver là-dedans des choses. Eh bien, comme la Bible, c'est la même chose. Dans tout ce qui est écrit concernant toutes les religions, il faut les lire au deuxième ou au troisième degré, parce que tout ce qu'on raconte, on peut très bien les interpréter de plusieurs manières. Donc, lui, comme il est dans la détresse, il lit tout ça et il ne voit dans tout ça que tout ce qui est donc esprit vengeur, défaut. Et donc, c'est comme ça qu'il l'a très bien dit. Au fond, il voulait aller au combat. Ce n'était pas tellement pour défendre, c'était surtout pour mourir. Et ça, je trouve que c'est une phrase très profonde. Très profonde, parce que j'ai encore des écrits que quand j'étais très jeune, eh bien, j'avais des pages, à toutes les pages, il n'y avait que ça. Une page, je voudrais mourir. On vous tournait la page, vous lisez, je voudrais mourir. Troisième page, voilà. Donc, moi, je suis à même de comprendre ça. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et lui, quand il arrive au combat, eh bien, il se rend compte que tout compte fait, c'était pas sa vraie place non plus. Mais ce qu'il voulait avant tout, c'était mourir. Mais lui, il a eu l'intelligence, car il est très intelligent. Il a pu voir que tout compte fait, ça ne lui apporterait pas grand-chose non plus. Et je crois que c'est un garçon formidable.
Nous autres adultes, sommes-nous toujours des exemples pour la jeune génération ?
On est des exemples, mais pas toujours les meilleurs. Je trouve que l'adulte est aussi très radical dans sa manière d'être. Moi-même, je pense que je peux être radical sur beaucoup d'idées. Hein. Par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes, dont un jeune qu'on a entendu parler, qui parle d'extrême-gauche. Je sais qu'il y en a certains qui me prennent pour quelqu'un d'extrême-gauche, le wokiste de base, etc. C'est une forme de radicalité, mais c'est aussi parce qu'on est en colère. On est en colère aussi, on doit faire attention à ce qu'on répercute par rapport à ça aux jeunes. C'est pas notre colère qu'on doit insuffler à ces jeunes. C'est pas notre frustration par rapport à la société. Ce qu'on doit insuffler, c'est l'espoir, en fait, tout simplement. Même si on n'y croit pas. C'est une phrase très, très dure à dire, hein, mais de temps en temps, j'y crois pas. Mais je dois croire aux générations futures. C'est la seule chose qui est importante. Je me dis, s'il y a même 0,1% de chance qu'il change quelque chose, je dois y croire, et à 200%. Et en tout cas, je dois le laisser paraître que j'y crois à 200%. Et c'est ça, notre travail d'adulte. C'est de dire, non, nous, on croit en vous. On croit au fait que vous pouvez changer, pas juste vous-même, mais ce qui vous entoure. Et ça, je pense que c'est notre travail d'adulte. Mais c'est dur, de temps en temps, de faire la part des choses.
Les jeunes ne sont pas le problème, ils sont la solution.
Bien entendu. Je suis encore jeune, hein, je pense, j'ai dans la trentaine, mais je pense déjà que c'est plus tellement à moi à changer le monde. Moi, je suis là pour essayer de donner envie aux gens de changer le monde. C'est ça mon but maintenant, c'est cette jeunesse. Et c'est ce qui me donne un peu d'espoir, en fait, sur l'avenir, c'est de voir une jeunesse qui est aussi plus militante. Qui a envie de faire changer les choses. Il y a quelque chose derrière tout ça. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est dans un moment où il faut lutter. Et lutter, c'est pas mal. C'est très bien même de lutter. C'est de dire qu'il y a des outils. Moi, je vais donner un exemple très concret. C'est que j'ai eu un jeune, il n'y a pas très longtemps, qui a éclaté un moment lors d'une activité. Parce que voilà, il a trouvé que l'intervenante avait été un peu raciste. Et on a senti beaucoup de colère contre les personnes qui sont pour le colonialisme à Bruxelles, avec les statues. Et du coup, il a parlé énormément d'anticolonialisme. L'intervenante était super, etc. C'est juste qu'il s'était mal compris, ça s'est très vite apaisé. Mais moi, après, avec ce jeune, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un travail avec. Et je lui ai dit, bah, pourquoi tu ne milites pas pour l'anticolonialisme sur Bruxelles, si ça te tient tellement à cœur, si tes origines congolaises te prennent tellement à cœur? Et du coup, je l'ai ramené vers plusieurs associations. Et du coup, il a fait une balade décoloniale sur Bruxelles. Il a redécouvert Bruxelles autrement. Et maintenant, il a envie de... Voilà, de... Bon, en tout cas, c'est ce qu'il m'exprimait. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Mais il exprimait son envie de devenir militant pour cette cause-là. Pour dire, bah, ok, bah, en fait, il y a des bons vecteurs pour canaliser cette colère et pour faire changer les choses. Ben voilà, ça, on peut l'insuffler aux jeunes. Chacun avec sa spécialité, on peut insuffler ce petit côté militantiste.
D'abord, il faudrait déjà que les parents montrent l'exemple, qu'ils s'occupent des autres. Bon, il faut voir clair le plus vite possible. Mais problème, c'est que même, je vais dire, dans certains établissements scolaires, et même dans des associations sportives, enfin, dans tout ce monde qui gravite, je vais dire, autour des tout jeunes, eh bien, ils devraient être beaucoup plus attentifs. Et alors, si on est rébarbatif, mais un jeune ne va pas se confier à quelqu'un qui sait déjà d'avance qu'on va le remballer. On va dire, oh ben non, qu'est-ce que tu racontes, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, le mot de notre époque, je n'ai pas le temps.
Je pense, moi, l'idéal, c'est de créer peut-être comme... vous disiez, de la prévention et de la rencontre entre les jeunes. Donc je pense dans les écoles, premièrement, et dans tous les groupes de jeunes, que ce soit chez les scouts, dans les écoles, dans des équipes de sport, dans tout ce que les jeunes, dans les réseaux, les réseaux sociaux. Je pense que oui, il y a de la prévention à faire dans tout ce qui touche aux jeunes, et de leur dire que c'est important d'être à la rencontre et dans l'ouverture et de discuter, de faire discuter ces jeunes entre eux. Je pense qu'il est important.
Si je me sens bien, j'ai envie que les autres aillent bien. Je sais davantage me préoccuper de l'état du monde.
D'accord. Je pense qu'il faut d'abord se sentir bien avec soi-même pour réussir à insuffler aux jeunes cet état d'esprit, par exemple. Je prends cet état très concret, mais moi, je vais dire quelque chose qui est un peu dur, c'est que l'état des personnes travaillant en IPPJ n'est pas très bon en ce moment, il faut le dire. On se sent mal. Les adultes ont beaucoup de mal en ce moment. Il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de... On a peur avec comment la société évolue. On a peur en voyant les cas qu'on récupère, qui se diversifient.
Des situations des jeunes.
Des situations des jeunes, oui. Aussi sur ce qu'on nous donne pour pouvoir bien les encadrer. Mais moi, je vois mes collègues, éducateurs, formateurs, éducatrices, psychologues, etc., etc., qui ont de moins en moins de moyens, qui ont de plus en plus de paperasse, qui ont de moins en moins de temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire avec les jeunes, pour faire un vrai encadrement. Et je me dis que ces personnes-là sont de plus en plus frustrées, sont de moins en moins bien. On vient parfois avec des pieds de plomb au boulot. Et en fait, dans ces conditions-là, comment on peut bien encadrer un jeune? Et c'est pas la faute de mes collègues, ils font au mieux avec ce qu'ils ont et ils sont 10 fois plus courageux que je ne le serai jamais de réussir à faire ça. Mais du coup, il faut le savoir aussi que l'encadrement qu'on propose aux jeunes, si on traite mal l'adulte qui est censé le donner, bah, il ne va pas être adapté non plus. Et je pense que c'est important de mettre le point là-dessus.
Ce qu'il est peut-être important de retenir de ce 3e épisode, c'est qu'un sentiment de manque d'appartenance à notre monde peut favoriser et pousser à une souffrance énorme. Que dans une société qui ne crée plus assez de liens et qui ne prend pas assez soin de l'ensemble de ses jeunes, cela peut favoriser la colère et le repli sur soi. Favoriser de petites radicalités multiples aux dépens de ce vivre ensemble. Il faut donner les moyens aux plus jeunes de changer ce monde, d'avoir le désir de s'impliquer dans une société plus juste, de lutter contre les inégalités, le repli sur soi, chacun avec sa spécialité. Et pour les préparer à cette tâche-là, ben nous, adultes, c'est de montrer l'exemple que l'on arrive à s'occuper des autres. C'est aussi se donner les moyens et être attentif aux structures d'accueil et permettre aux travailleurs sociaux d'aller bien.
Merci à Igor et Romain pour leurs témoignages précieux. Merci à Annette, Dounia et Nolan en tant qu'experts pour leur contribution.
Samarcande, c'est une AMO, mais aussi des podcasts.